Moi, c'est André Limbouchmaï, au Katanga oriental. J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs pour vous informer. Et aujourd'hui, Parole aux auditeurs vous propose ce nouveau numéro autour des finances publiques. Vous le savez déjà, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, propose le recours au partenariat public-privé pour financer le développement de nos provinces. Entre-temps, un expert en finances publiques, lui, réagit et propose que le gouvernement commence d'abord par appliquer l'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution qui dispose de la retenue à la source. Alors, qu'en pensez-vous? Le débat est ouvert. Vous pouvez déjà participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net. Merci à tous de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats parce que vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Dans un instant, nous allons vous proposer, en tout cas dans le panel, de ceux qui vont faire l'échange sur ce sujet. Jean-Claude Siala et Priscille Kabouya concourent à la production de cette émission réalisée et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo. Luabung, Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Patrick Ngoulou qui est avec nous. Bonjour Monsieur Patrick.
Bonjour, Patrick Tshibangu.
Patrick Tshibangu, vous êtes avec nous. Bonjour. Alors, comment avez-vous réagi?
Oui, par rapport à l'intervention du ministre national des Finances, appelant à l'utilisation du mécanisme de partenariat public-privé pour financer les investissements au niveau des provinces, nous avons pensé que, en dehors d'être une bonne initiative, mais que le gouvernement devrait d'abord commencer par appliquer l'alinéa 2 de l'article 175 de notre Constitution qui stipule la part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40% et les retenues à la source. Cette retenue à la source n'a jamais été effective depuis que cette disposition constitutionnelle a été publiée. Nous pensons que si le gouvernement au niveau central pouvait ne fût-ce que appliquer cette disposition constitutionnelle, ça permettrait aux provinces de mobiliser le plus de fonds possibles pour le développement au niveau local, au niveau des provinces, plutôt que de continuer à commander ou à attendre toujours des appuis ou des transferts qui doivent venir du gouvernement central.
Alors Patrick, est-ce que quand vous dites cela, avez-vous mesuré les avantages et les risques des PPP, par exemple, pour arriver à une telle conclusion en disant qu'il faut pratiquement appliquer l'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution en lieu et place de proposer ces genres ou ces types de modèles de développement économique de nos provinces?
Effectivement, les partenariats public-privé, si on peut le dire de manière tout à fait brève, c'est un accord contractuel à long terme qui permet à l'État ou à une
entre l'État et le privé, à
un opérateur privé pour réaliser des infrastructures, des services publics avec un échéancier de remboursement et que l'opérateur privé pourra commencer à récupérer son argent pendant le long terme. Alors, c'est vrai, il peut y avoir des avantages, notamment la facilité de fonds pour réaliser les investissements publics, peut-être aussi quelques innovations qu'apporte l'opérateur privé. Mais ici, lorsque nous parlons de la question liée aux 40%, c'est parce que lorsque nous analysons, par exemple, nos budgets des provinces, je donne un exemple. Le budget, moi je suis au Kasaï oriental, le budget de la province du Kasaï oriental, tel qu'il a été présenté, en termes de recettes propres, c'est un budget qui a aligné moins de 20% de recettes propres. Et le reste constitue les recettes exceptionnelles, ainsi que les recettes qu'ils attendent du gouvernement central, qui sont estimées à plus ou moins 40 à 50%.
Oui, alors, Patrick, parce que nous sommes dans un panel, je vous garde encore en ligne, il est temps d'écouter également Amos qui va réagir par rapport à cette proposition, parce que nous avons vu beaucoup des commentaires dans le sens de pouvoir, disons, remettre en cause cette proposition du ministre. Il y a certains parmi eux qui évoquent peut-être l'intention de pouvoir profiter des marchés qui seront signés avec des privés. Je ne sais pas si Amos pense comme ça, mais Patrick, restez encore en ligne parce que c'est le panel, on va faire l'échange les uns et les autres. Alors Amos.
Allô, JR.
Oui Amos, vous avez la parole.
Merci, j'étais d'abord, de prime abord, à saluer tous les auditeurs de la radio Capi et l'invité. En fait, nous avons tous suivi la proposition du ministre des Finances. Et à mon avis, je pense que ça vaut la peine. Parce que les partenariats public-privé ont aidé certaines provinces à se développer. Parce que quand on signe un contrat avec un privé, lui, il prend les choses au sérieux et il veut juste atteindre l'objectif. Pourquoi je le dis? Nous avons constaté que les services d'assiette qui sont là pour mobiliser les recettes de l'État des fois détourner l'argent de l'État. Je prends un seul exemple au Sud Kivu. Il y a dans une entité ou une taxe de l'État, les services d'assiette, 3 mois d'IRA, ils ont réalisé $380 pendant 3 mois. Mais quand un privé a signé un PPP avec l'État, cette taxe se mobilise aujourd'hui autour de $4,000 le mois. Une seule taxe. Comprenez? Combien d'argent qui y a été détourné par les services d'assiette, et pourtant c'est l'argent qui devait être dans les trésors publics. L'important c'est de savoir, une fois on signe un PPP, est-ce que l'argent mobilisé est bien canalisé et est géré d'une manière orthodoxe? Voilà le vrai.
Oui, mais lorsque dans les principes fondamentaux des partenariats publics-privés, on évoque les avantages tels que offrir à l'État à la population des services publics de meilleure qualité. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un avantage à capitaliser?
Justement, c'est un avantage avec les PPP, mais aussi, ce que je voulais aussi signaler, c'est se demander si, du moins, ceux qui signent ces PPP respectent ce que demande la loi au préalable. Qu'on doit au fait publier même l'offre pour que tout le monde puisse postuler et que le meilleur l'emporte. Mais s'agissant maintenant de l'appel du ministre, moi je pense que le mal du Congo aujourd'hui, c'est d'avoir des dirigeants qui ne dirigent pas le pays selon nos textes et en l'occurrence la Constitution. Pourquoi le ministre, lui qui est le ministre des Finances, et il est dans le pouvoir en place, ne devait pas se dire pourquoi jusque-là, nous qui avons longtemps crié respect de la démocratie, respect de nos textes dans la RI, jusque-là l'article 175 respecté, qui exige au gouvernement de la retenir à la source dans chaque province. Parce que c'est la question que tout le monde se pose hier.
Mais ça va défavoriser certaines provinces qui ne produisent pas.
Il y a aussi le système de péréquation.
Mais la caisse là n'est toujours pas mise en place, n'est toujours pas opérationnelle, la caisse nationale de péréquation.
Voilà pourquoi je ne cesse de dire que tous les acteurs politiques congolais sont les mêmes.
Et voilà. Alors, aujourd'hui, je crois que nous allons faire vraiment un exercice citoyen dans cet échange. Nous vous gardons en ligne, le temps d'écouter également Simon Siloulou qui nous a rejoint. Lui, il est à Matadi, et puis on reviendra à Patrick Tshibangu qui est au Kasaï Oriental. Alors, Simon Siloulou, vous avez la parole. Vous avez écouté Patrick et également Amos. Quelle est votre position par rapport à ce partenariat public-privé? Est-ce que vous adhérez à la proposition du ministre?
Oui, merci beaucoup, c'est Simon Siloulou depuis Matadi, Congo Central. En fait, moi, je pense que la République doit avoir des repères. Parce qu'il ne faille pas qu'on commence toujours pour qu'on aille avec l'exercice de recommencement éternel. À ça nous suffit, tout comme lors de la révision de la Constitution, les choses ont été bien définies. On avait dit les provinces vont devoir retenir à la source 40% pour leur développement. Et les études faites, les analyses mises en place prouvent à suffisance que si nos provinces reçoivent, retiennent 40%, nos provinces deviendront des paris d'Afrique. Mais on n'a jamais appliqué cette disposition. Les gouvernements passés se sont conspirés contre la population pour trouver un terme qu'on appelle rétrocession, qui ne se trouve pas dans la Constitution. Alors, vous pensez que ce genre de solutions proposées, nous sommes dans un système fichisme où on accepte le socialisme et le capitalisme. Et dans le capitalisme ou le libéralisme, c'est l'État qui, l'État perçoit les taxes. Que l'État mette, peut-être puisse revoir les dispositions fiscales par rapport au privé ou au capitaliste, et que l'État rentre, prend ses taxes, cherche encore des partenariats pour développer les provinces, alors que la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui a parlé de la retenue à la source de 40%. Nous pensions que le gouvernement passé, c'est par advertance qu'il voulait, qu'il ne voulait pas appliquer ça. Et on pensait, on espérait trop avec l'opposition d'hier, qui est devenue les partis qui sont devenus des partis au pouvoir. On pensait que ces dispositions par
oui, voilà. Simon, je vous laisse écouter quand même Patrick d'abord, qui a introduit cette émission. Patrick Tshibangu, vous êtes encore avec nous, non?
Oui, je suis là.
Alors, je disais tout à l'heure, est-ce que parmi les avantages, vous l'avez reconnu, il y a multiples avantages par rapport à ces contrats des PPP, mais lorsqu'on sait que les projets en soi, il est financé par des emprunts réalisés par l'entreprise privée, est-ce que là, quelque part, ce n'est pas cautionner, disons, un modèle économique qui pourrait ne pas avoir, disons, les privés vont devoir détourner parfois certains droits de l'État. Parce qu'avec les emprunts, ils risquent à récupérer sous une autre forme. Parce que c'est un emprunt.
Les privés ne vont pas détourner tous les droits de l'État parce que dans les moyens de financement des investissements publics, cette approche des partenariats publics-privés peut être utilisée. Mais la question, c'est comment nous allons gérer les échéanciers et les remboursements. C'est là le problème, parce que lorsqu'il y a des contrats de PPP, souvent les échéanciers sont très élastiques et le taux de remboursement n'est pas toujours en faveur de l'État. Ce qui fait que pour un investisseur qui a mis, par exemple, 100 millions, le taux de remboursement, s'il n'est pas bien négocié, c'est l'État qui risque de perdre en finish. Alors, c'est pourquoi le PPP doit être vraiment bien encadré par le gouvernement et bien suivi par les populations lorsque le gouvernement met à la transparence de la population tous les contrats liés à tous les projets de PPP, ce qui va permettre à ce que la population puisse suivre et puisse donner son avis dans le cadre des échéanciers de remboursement. Mais j'ai suivi un auditeur qui a parlé sur les questions... Non, je crois que c'est vous-même qui avez parlé sur la retenue de 40% en disant qu'on va, on risque de privilégier certaines provinces
de favoriser en faveur des autres.
Non, je ne pense pas. Parce que les 40% qui doivent être retenus, elles sont faites en fonction de... Lorsque vous lisez la loi relative aux finances publiques, si je ne me trompe pas, ça doit être l'article 221. Il est prévu que la retenue à la source, elle se fait en fonction du poids démographique de la province, et se fait en fonction aussi de la capacité contributive budgétaire de chaque province. Ce qui signifie que lorsque une province ne mobilise pas assez, donc, par conséquent, ces 40% seront faibles. Et si elle mobilise assez, les 40% seront élevés. Au contraire, au lieu que ça puisse créer une disparité entre les provinces, moi je pense que ça va créer une émulation, un challenge entre les provinces
Alors,
pour mobiliser plus.
Voilà, donc ça créera un challenge. Patrick, je vous garde encore en ligne le temps de libérer Amos et Simon Siloulous. Amos, c'est vrai, vous l'avez dit, ça risque de poser problème, le fait que la Caisse nationale des péréquations semble ne pas être, de attirer l'attention de gouvernement. Alors, donc vous dites dans votre propos qu'il va falloir qu'on passe absolument par la mise en place de la Caisse nationale des péréquations.
Tout à fait. Moi, je pense, je venais de suivre l'intervenant tout à l'heure, je salue ses analyses, ça peut parvenir à créer l'émulation entre provinces concernées, ce qui est vrai, mais avant de mettre en place la caisse de péréquation, je pense que ceux qui ont initié la caisse de péréquation ont compris la question, et ils ont dit que c'était une manière d'aider ces provinces-là qui mobilisent, qui ne parviennent pas à mobiliser valablement les recettes, ou qui n'ont pas de ressources. Et c'était une bonne manière de vouloir développer toute la République. Mais cela aussi n'a jamais été respecté. Je me dis que nos dirigeants en place nous aident à respecter d'abord la Constitution pour ce qui est de la retenir à la source. Parce qu'on n'est pas d'accord que des provinces mobilisent des millions et des millions de dollars. Cet argent va à Kinshasa. Il n'y a pas de retour. Il faut voir le temps de nos provinces qui
voilà.
N'ont pas des routes.
Merci beaucoup Amos d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre également Timo Tilulu qui va placer un mot avant qu'on les libère. Timo.
Oui, moi je pense que monsieur le journaliste, il ne faut pas que le gouvernement cherche à trop tergiverser, puisque le partenariat privé-public, nous savons comment fonctionne le privé ici. Nous avons des Indo-Pakistanais ici. Vous savez comment ils traitent nos frères, comment ils traitent ici. Que l'État prenne ses responsabilités. Qu'ils appliquent l'article qui dit la rétrocession est retenue à la source de 40%. Les provinces sous-développées qui ne peuvent pas atteindre ça. La Constitution a prévu la péréquation pour pousser de façon collégiale, de façon solidaire, pour pousser les autres à avancer. Aller vers les partenariats privés-public, déjà ces sociétés privées ou ces partenariats privés ont déjà des problèmes de fiscalité. Vous savez, notre système fiscal est très compliqué. Sinon, on va encore chercher à réduire...
Mais assurément, ils bénéficieront des allègements fiscaux.
Oui, mais l'allègement là, c'est l'État qui perd, non? L'État perd. Donc l'État manque quelque chose à gagner dans cette entreprise. S'il fasse des choses, nous sommes dans un système, dans un dirigisme économique. Donc il y a le public et il y a le privé. Que le privé paye les taxes à l'État et que l'État prenne
les... Et les moyens de sa politique pour construire les infrastructures.
Oui, pour construire les provinces en faisant retenir aux provinces à la source les 40% que nous attendons de pourtant ne pas donner les 40% aux provinces. Je vous assure, même le diable ne peut pas être content. C'est une manière de museler et de réduire les provinces vers un sous-développement que Jésus-Christ risque de venir nous rencontrer avec.
Voilà. Alors, donc, avant de vous libérer, vous posez là un problème de questionnement sur les procédés utilisés, la méthodologie, l'approche même utilisée dans la passation des marchés. Et là, en recourant également au PPP, nous risquons de consacrer la corruption qu'il y a autour de passation des marchés. Et nous avons vu plusieurs procédés qu'on a dû avoir dans ce pays autour des détournements qui parlaient autour de légèreté dans la passation des marchés.
Oui, mais il y a l'IGF est là. L'IGF est là, on va encore l'outiller de manière plus dangereuse que là.
Merci beaucoup.
Pour ramasser tous ces prédateurs.
Merci beaucoup Simon. Voilà, merci beaucoup Simon Tsiloulou d'avoir appelé de Matadi. On va prendre Kalo Kalonji qui est à Mbujimayi. Kalo, bonjour.
Bonjour Monsieur Gère et bonjour aux auditeurs de la radio Gassi.
Oui, votre réaction.
Oui, j'ai suivi bien le ministre. Ce qu'il a annoncé vraiment, c'est bien, mais je commence par les inquiétudes. C'est comme si le ministre se réveille aujourd'hui. C'est comme si le ministre voit maintenant là le développement des provinces. Mais vous allez vous rappeler que ce n'est pas seulement les partenariats public-privé qui va booster effectivement les provinces. mais il faut retenir aussi, il y a certaines choses. Vous savez, le problème des animateurs territoriaux pose trop de problèmes dans notre pays. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un, vous le placez, vous attendez à un développement. Le développement ne vient pas parce qu'il y a il y a le partenariat public-privé, mais les animateurs comptent aussi. Je me dis aujourd'hui, là, s'il faut parler de développement, je soutiens l'expert qui a parlé, par exemple, à ce qui concerne la rétrocession. Non, pas la rétrocession, la retenue à la source de 40%. Je me dis souvent, cette histoire de rétrocession vient d'où, effectivement? Parce que normalement, selon la Constitution, nous devons avoir la retenue. Mais s'il faut passer par la retenue, mais je me pose la question, pourquoi il y a une caisse de péréquation? Vous savez, aujourd'hui, une fois là, j'avais parlé sur votre chaîne. Il y avait un invité là-bas, Moïka Sange, qui était de chez nous. Il a dit, effectivement, si vous passez par la retenue, il y a d'autres provinces, peut-être jeunes, qui ne seront pas par rapport à leur potentialité faible de ressources. Mm-hmm. Est-ce que réellement, si aujourd'hui nous passons seulement, bien sûr, nous voulons la retenue, mais ça sera combien de provinces sur 26 qui vont vraiment booster leur économie? Moi, je vais parler de 3 ou 4 provinces, parce que normalement, si on passe comme ça, les provinces, comme quand vous prenez, par exemple, ici, je prends ici chez nous, quand vous avez, par exemple, l'Omani qui est à côté de nous ici, en termes de recettes, en termes de ressources, moi, je me dis vraiment, c'est tuer encore des provinces. Le grand problème, c'est Kinshasa qui bloque. Parce que si aujourd'hui, nous avons des animateurs réellement, dans le pays qui les reçoivent au niveau local, ils doivent booster ça. Mais quand vous avez des animateurs incompétents, les incompétents là, par exemple, au niveau des marchés, passation des marchés publics, mais c'est JR. Il y a des animateurs au niveau des territoriales qui ne savent même pas comment effectivement se passent les marchés publics. Ici, chez nous, c'est comme si la direction des marchés publics est devenue, je peux dire, une histoire morte. Là, les gens ne s'intéressent même pas, ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, je me dis, le développement des provinces, bien sûr, des partenariats publics-privés, d'accord, mais il faut voir aussi les animateurs, les gens. Vous placez les gens parce que vous, il est de tel parti politique. En termes de compétences, zéro. Alors, vous allez vous attendre. Le ministre, il a dit, Peter, moi j'ai dit, pas Peter, Nicolas, je me dis, il a bien dit, il s'est réveillé, mais trop tard. Moi, je me dis, de tous ces temps, je suis comme ici chez nous, au Gassin Oriental. En dehors de ce que nous avons comme les routes, on a construit par les projets nationaux. Mais au niveau provincial, vraiment, ce sont des animateurs qui dorment. Moi, je me dis, nous avons passé, je ne sais pas l'autre gouverneur, mais nous sommes ici dans les mêmes histoires, en tout cas. J'en ai marre avec ce pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre des animateurs normaux qui peuvent vraiment booster notre gouvernement.
Merci beaucoup, Kalo Kaloji, d'avoir appelé des Bujimaï. Alors, en attendant, avant de prendre Alidor, nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous sommes dans les domaines des finances publiques avec la déclaration du ministre qui propose le recours au partenariat public-privé pour financer le développement de nos provinces. Mais cette déclaration a été balayée des revers de la main par certains experts qui estiment que, voilà, il va falloir d'abord pour le gouvernement de commencer par appliquer l'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution qui dispose de la retenue à la source. Alors, qu'en pensez-vous? 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs.
Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Capi pour vous informer. Parole aux auditeurs se poursuit avec vous, Patrick Tshibangu. Vous êtes en ligne, Patrick. Vous avez suivi les uns et les autres et tout à l'heure, d'ailleurs, c'était dans une discussion d'ensemble avec Amos et Simon. Il y a plusieurs questions qui se sont dégagées, mais je retiens ce que vient de dire notamment Simon Tiloulou qui parle des privés qui doivent payer les taxes pour permettre à ce que l'État puisse offrir à la population des services publics de meilleure qualité. Comment réagissez-vous, Patrick Tshibangu? Allô, Patrick? Voilà, on prend plutôt Peter Mavidi. Peter qui est à Kinshasa. Peter, bonjour. Voilà, Patrick, vous êtes avec nous? Voilà, voilà, des petits soucis. Alors, Peter?
Oui, monsieur Jure, je suis avec vous.
Vous avez la parole.
Je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat, monsieur Jure. Mais, je pense que les amis ont évoqué les aspects purement fondés concernant la proposition du ministre des Finances, monsieur Jure. Je pense que, monsieur Jure, il y a un problème. Le problème, tel que les amis l'ont souligné, le problème d'abord, c'est celui du respect des lois qui nous régissent. Parce que le ministre sait que il y a des compétences vraiment directement liées aux provinces. Il y a aussi des compétences liées au gouvernement central dont il fait partie. Les compétences entre les provinces, les provinces et le pouvoir central sont d'attribution. Mais est-ce que le gouvernement central, à ce qui concerne ces attributions, est-ce qu'ils sont à la hauteur de penser au développement des provinces? Je ne pense pas. C'est ça le grand problème. Et également aussi, Carlo Kalonji a évoqué les aspects purement fondés par rapport aux compétences. Monsieur Jure, combien de gouverneurs qu'on a eu à déchoir au cours de cette législature? Et les motifs évoqués par les députés provinciaux, c'était lié notamment à la mauvaise gestion et à l'incompétence. C'est ça le grand problème qui force que les provinces ne puissent pas décoller au développement tel qu'attendu, voulu par le peuple. Je pense que nous devons nous-mêmes être d'abord sérieux à tout ce que nous voulons prendre comme décision, comme position, M. Jure. Le problème que les amis ont évoqué sont fondés. Est-ce que le ministre, aujourd'hui, peut dire nécessairement que c'est seulement les partenariats privés, publics, qui pourront faire de sorte que les provinces puissent décoller? Moi, je dis non. Le problème, d'abord, c'est l'homme. Même si on mettait le gouverneur, tel que nous le constatons là, incompétent, à la tête de province, même s'il y a ces partenariats, M. Jure, je pense que cela ne va pas profiter au développement des provinces, mais bien sûr, aux hommes politiques. Je sais que le problème des provinces, M. Jure, c'est l'apanage des hommes politiques qui sont souvent à Kinshasa, qui pensent que même le peu de moyens qui entrent dans nos provinces ne sont pas au profit de la population pour le développement des provinces, mais bien sûr, pour les hommes politiques qui sont ici à Kinshasa, dont certains des gouverneurs sont émanation des hommes politiques de Kinshasa, pour arriver à voter un gouverneur. C'est Kinshasa qui décide, M. Jure. C'est ça le grand problème. Même si on mettait le gouverneur venant du ciel et qu'il n'y a pas le respect de nos textes, je pense que nous n'allons pas nous attendre au développement tel que voulu par le peuple.
Voilà.
Et je pense que c'est très capital
Peter,
que nous puissions mettre l'aspect
là sur la table. Oui, Peter, nous vous gardons. Oui, Peter, je vous garde encore en ligne. Il est temps d'écouter également Alidor. Alidor, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, monsieur Jure. Bonjour à vous.
Voilà, vous venez d'écouter.
Ainsi qu'à tous les auditeurs.
Voilà, parce qu'on fait un échange ensemble avec les autres sur cette question des finances publiques. Vous venez d'écouter Peter Mabudi ainsi que vos prédécesseurs. Et comment réagissez-vous? Peter, ne quittez pas.
Oui, monsieur Jure, je partage d'abord l'avis de mes prédécesseurs parce qu'il se pose d'abord un problème dans notre pays. La loi consacre la libre administration des provinces. Mais dans la pratique, nous nous rendons compte que les provinces ne sont pas librement administrées. Tout se décide au niveau du pouvoir central. C'est ça le grand problème. Parce que les provinces ne peuvent pas se développer tant que c'est le pouvoir central qui a toujours un mot à dire et selon la politique nationale, différemment de tout ce qu'on peut faire au niveau de la province. Oui, le ministre national des Finances parle du partenariat public-privé. Avec tout ce que nous avons comme cycle interminable de motions de défiance contre les exécutifs provinciaux. Il y a des privés là qui ne peuvent pas signer avec une province parce qu'ils disent aujourd'hui je vais conclure, je vais mettre des fonds en jeu avec un gouverneur X. Mais demain on le déchoit. Celui qui viendrait vous dit non, ça c'est bien qu'on consacre la continuité des services publics. Il vous dit non, ça c'est le mandat, je pense qu'engage la personne avec qui vous avez signé. C'est un problème. Beaucoup de partenaires sont aujourd'hui réservés. Et un autre problème, monsieur Jure, c'est le problème de la bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a la bonne gouvernance seulement? Les prédécesseurs l'ont déjà relevé. Au niveau des exécutifs provinciaux, il décolle l'administration. Et là, mais nous avons souvent, parce que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux, c'est sur base de... donc, comme je l'ai toujours dit, le mieux au franc, c'est lui qui vient, qui promet X poste, Y poste aux députés provinciaux, c'est lui qui leur donne le pouvoir, c'est celui-là qui est le candidat idéal pour eux. On vote sans tenir compte des aspects ou des critères objectifs, le profil.
personne qui peut développer ou apporter le développement des provinces. Mais j'ai aussi les problèmes de rétrocession, mais c'est GL. La loi parle de la rétrocession, de retenir la source. Le pouvoir central a privilégié la rétrocession. Le ministre pouvait d'abord dire aujourd'hui, là, est-ce que combien de fois il rétrocède les fonds aux provinces? Parce qu'il faut prendre 9 mois, 10 mois, les provinces partout, on vous dit toujours qu'on n'a pas de fonds. Mais les provinces sont en train de produire, et tout ça c'est au niveau national. Maintenant, comment vous, si déjà on applique la rétrocession,
Voilà. Merci. Oui, mais Maître Elidor, nous restez en ligne, il est temps peut-être d'écouter également un analyste économique, Patrick Tshibangu, qui nous a rejoint. Patrick, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Alors, je disais tout à l'heure, quand on écoute les compatriotes disséminés à travers le pays, tous évoquent cette question de la retenue à la source, mais bien évidemment, on sait que le gouvernement s'emploie à rétrocéder les 40%. Mais d'aucuns, s'inquiètent parce que ce n'est pas à un rythme régulier. Et c'est ce qui fait que les provinces ne se retrouvent pas. Et pour ce faire, au lieu de privilégier les partenariats publics-privés, certains ont préféré que les privés continuent à payer les taxes et ça donnera les moyens, l'État aura les moyens de sa politique pour offrir des services public de meilleure qualité.
Oui, les privés peuvent continuer à payer des taxes et nous avons suivi parmi les auditeurs, il y avait quelques questions, quelques préoccupations par rapport à la bonne gouvernance dans la gestion de ces recettes publiques, notamment aussi la question aussi sur la compétence des animateurs des provinces à pouvoir mobiliser ces mêmes taxes, ce qui fait que il se pose vraiment un problème des finances publiques au niveau des provinces. Mais cela est possible si nous avons des animateurs qui peuvent mobiliser comme il se doit. Les questions des 40%, en dehors de ces 40%, j'ai entendu des auditeurs parler sur la caisse de péréquation. La caisse de péréquation, au niveau de la RDC, est déjà... Les intentions de les rendre opérationnelles sont déjà manifestes au niveau du gouvernement, mais jusque-là, elle n'a pas encore commencé à pouvoir agir en faveur des provinces comme c'est prévu, alors que dans son programme d'action, le gouvernement de la République a prévu de pouvoir faire fonctionner la caisse de péréquation, et cela ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que les questions des finances publiques, on devra manager d'abord au niveau des provinces pour que les animateurs des provinces soient en mesure de mobiliser leurs propres fonds pour leur propre développement. Mmh. Tant que nous continuons à attendre que cela soit rétrocédé par le gouvernement central, ça crée un dysfonctionnement au niveau des provinces. Comme vous l'avez dit, le rythme de paiement n'est pas suivi et même le oui. taux de remboursement n'est pas réel, les 100% des
cas. Alors il y a un auditeur qui nous a qui a commenté ce sujet et qui au fait a même posé une question de curiosité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que la DGDP c'est une mesure d'encadrement par rapport au dérapage ou au dysfonctionnement que peut avoir les contrats PPP par exemple?
Oui, la DGDP, cette mesure, ce mécanisme-là, pour contre les dérapages, mais le contrôle des gestions des finances publiques doit être le plus objectif et régulier possible, en associant bien sûr toutes les institutions qui doivent travailler dans le cadre du contrôle des gestions des finances publiques, les ordonnateurs, les inspections des finances, la Cour des comptes, mais que ces contrôles soient vraiment objectif pour que les finances, la gestion des finances publiques soit assainie. Mmh. En dehors de cela, la plupart des provinces mobilisent les recettes sans un circuit informatisé de mobilisation des recettes. Ce qui fait qu'il y a plusieurs disparités, il y a plusieurs fuites des capitaux au niveau des provinces parce que le circuit de mobilisation des recettes n'est pas informatisé. Il n'y a pas un système informatisé pour capitaliser, pour mobiliser les recettes. Et tout ça, ce sont des mécanismes qui permettront à ce que le niveau de mobilisation des recettes au niveau des provinces soit élevé. Mais nous constatons que certains ou la plupart des animateurs des provinces ne sont voilà. pas très très chauds par rapport à...
Voilà, alors il y a... Voilà, on reste encore dans les débats avec vous, Patrick Tshibangu, les temps de libérer Peter Mabudi et Alidor. Alors Peter, vous venez de suivre Patrick, votre réaction?
Oui, merci Monsieur Jair. Je pense que nous sommes unanimes. Hein. Quand j'ai entendu mon ami Alidor et ainsi que notre invité, je pense que nous sommes tous unanimes que la position prise par les ministres des Finances vraiment nécessite des débats approfondis. Parce que le problème majeur, c'est lié au niveau des animateurs. Quand au niveau des provinces, nous avons des gouverneurs qui n'ont pas une vision managériale éclairée, une vision managériale exceptionnelle, justement pour apporter un souffle de changement au niveau des provinces, quelle que soit la capacité de mobilisation des recettes au niveau des provinces, M. J.F., ça aura toujours des problèmes. Ça aura toujours des problèmes.
Merci.
C'est comme je prends l'exemple d'une province où moi-même j'ai eu à entrer dans le couloir pour apprendre que les recettes qui entraient dans le temps, beaucoup de recettes profitaient seulement au gouvernement national. Donc justement, quand la province mobilise les recettes, tout est envoyé à qui? Et c'est ça qui devrait décider justement pour faire rentrer quelque chose au niveau des provinces.
Merci
si
beaucoup.
Les gouverneurs ne sont pas libres dans leur administration au niveau des provinces, quelle que soit sa capacité
voilà, vous évoquez également la libre administration des provinces.
Des problèmes.
Merci.
Je pense que nous devons revoir nos textes qui nous régissent en la
et
matière
le,
justement pour mettre fin à ces
merci problèmes. Beaucoup Peter Mabudi. Alors Alidor, un mot?
Oui, monsieur J.R., moi, c'est que c'est la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance doit donc être aperçue comme le contrôle exécutif, donc le contrôle réel des exécutifs provinciaux. Si les assemblées provinciales se réveillent de leur profond sommeil pour surveiller effectivement ce qui se fait au niveau des exécutifs provinciaux et aussi au niveau de toutes les institutions qui prennent part pour la bonne gestion des finances, si ces institutions-là, la Cour de l'Inspection Générale des Finances, l'ODEP, si toutes ces institutions-là sont vraiment à pied d'œuvre au niveau des provinces, nous pensons que le développement des provinces sera réel. Et si aussi au niveau du pouvoir central, on laissait effectivement la libre administration des provinces, que cela ne soit pas seulement théorique, il faut que ça devienne réellement la pratique. Et s'il y a rétrocession, que la rétrocession soit régulière, pas à des intervalles irréguliers comme nous le constatons. Et c'est cela aussi qui décourage en quelque sorte le mobilisateur, parce qu'on mobilise beaucoup, mais on ne retrouve pas à ce qu'on mobilise. Alors on doit installer un système parallèle, un système mafieux, où maintenant toutes les autorités au niveau des provinces se retrouvent. On vous dit qu'on a mobilisé X montant, mais ce n'était pas ce montant-là, parce qu'il y a un autre circuit qu'on a mis sur pied pour se retrouver aussi et contourner en quelque sorte la confiscation de toutes les recettes par le pouvoir central. Donc si c'est tout cela est mis en exergue, M. Giret, nous pensons que point ne sera besoin de recourir au partenariat.
Donc vous pensez qu'avant de penser au partenariat public-privé, et disons avant de passer au partenariat public-privé, il fallait déjà dans les études de faisabilité pour les projets de développement de nos provinces, il a été question de tenir compte de cet aspect des choses au lieu de les proposer en aval.
Sûrement, monsieur Gérard, parce qu'il lui fallait que cela soit d'abord appliqué et qu'on évalue le bilan. Si le bilan est négatif, c'est à ce moment-là qu'on pourra maintenant entreprendre ou envisager d'autres modes de gestion. Mais si cela, ce qui est prévu par le texte, n'est même pas encore mis en exergue, mais vous pensez déjà à une autre méthodologie, alors que celle qui est prévue par la loi n'a pas encore montré ses limites, donc le problème, c'est le problème du respect des textes. Si on respectait les textes,
merci beaucoup.
On luttait contre l'impunité. Et si aujourd'hui, là, l'IGF fait bien son travail, et qu'il y a aussi l'IGF, ce n'est pas seulement dans des grandes provinces, comme nous sommes en train de le constater. Quand il faut venir auditer, inspecter dans d'autres provinces, l'IGF ne recourt pas à ça. On ne sait pas. Il y a des tournements seulement dans des grandes provinces, et dans d'autres provinces en voie de développement, il n'y en a pas. Et pourtant, l'IGF doit aussi avoir des bureaux de représentation dans chaque province. C'est là qu'il pourra aussi propulser cette crainte-là d'être audité à tout moment, d'être surveillé, parce que les députés provinciaux, nous savons tous ce qu'ils font avec le mariage qu'ils concluent chaque fois avec les exécutifs provinciaux. Alors pour contourner à ce mariage-là, il faut que d'autres services de l'État indépendants comme l'IGF et ODEP, s'ils sont vraiment dans toutes les provinces et si ces services sont actifs, nous pensons que M. Gier, vous allez vous rendre compte que les provinces vont se développer.
Merci beaucoup, merci Maître Alidor d'avoir appelé de Kananga. Alors, on va prendre Maître Gaston qui est à Kinshasa. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour. Pierre Longham.
Vous avez la parole.
Oui. Bon, disons que c'est un problème lié aux finances. Hein. Un ministre des Finances, je ne sais pas, des Finances, des RSC qui a. Mais je pense que, vous savez, les provinces aujourd'hui, merci, ont des ressources propres. Et puis, il y a des ressources à caractère national qui sont perçues au niveau de chaque province, qui sont renvoyées à Kinshasa, et Kinshasa a l'obligation de rétrocéder. Au lieu de 60%, c'est 50% qu'on rétrocède, et puis il y a 10% qui rentre dans la caisse de péréquation, donc selon notre loi. Parce que ça, vous savez, c'est le système de régionalisme politique qu'on a eu à Tegedaï qui est président de notre constitution. Alors, par rapport, vous savez, aujourd'hui aussi, les pouvoirs sont à des niveaux. Au niveau, je peux même dire à trois niveaux. Il y a local, il y a provincial et puis il y a national. La même image que nous avons souvent de ce qui se passe au niveau national ici, c'est prévu aussi pour les niveaux régional et puis pour les niveaux, on dit local, urbain, municipal, tout comme ça. Alors, les provinces, à mon avis, ont les droits de négocier, de faire comme ce que le gouvernement central fait par rapport au gouvernement qui est là et le gouverneur, faire pour que il peut y avoir des accords entre les entreprises publiques et privées. Par exemple, dans la livraison des permis, on peut sélectionner certaines sociétés qui peuvent livrer. Hein, livrer ces documents et les gouvernants ont un petit pourcentage là-dessus. C'est pas si mauvais. Il y a beaucoup de domaines où les accords pareils doivent se faire entre provinces, mais tout en sachant que ces accords-là sont sous la tutelle, sous les surveillances des ministères, tutelle comme on dit. C'est ce qui se passe normalement par rapport à notre système. Et bien sur le plan du développement, d'ailleurs, ce qui se fait d'ailleurs, c'est même pas à dire, on voit aujourd'hui les députés qui sont les constructeurs des ponts dans l'ère qui est chef électoral, qui sont les constructeurs des bâtiments publics. Et c'est comme ça, c'est aussi une manière de. Bien que ce n'est pas leur travail de faire tout cela, et c'est. Je ne sais pas, mais moi je pense que c'est sûr que
merci,
ça doit se faire.
Voilà, merci beaucoup.
Bon, je ne sais pas si j'ai tout parlé, j'avais encore à dire.
Mais ça va, vous avez tout dit. Merci beaucoup, maître Gaston. Alors, maître Moïse, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour m'avoir donné l'occasion, afin que nous puissions placer un mot en rapport avec la thématique du jour. Moi, je pense que la bonne manière, d'abord pour l'État congolais, et plus particulièrement pour notre gouvernement, c'est d'appliquer la loi en matière de finances publiques. Messieurs les journalistes, dans la Constitution, il est dit ceci que pour que, concernant la gestion financière des entités, il est dit qu'il y a l'argent qui doit rester en province, et non encore envoyer l'argent au niveau national, et puis le gouvernement fait encore retourner cet argent au niveau de la province. En tout cas, ça c'est le vice des procès. En tout cas, ça c'est le vice des procès. C'est pourquoi, quand on commence à dire non, il faut qu'il y ait les contrats entre les publics et les privés pour bien gérer les finances des provinces, en tout cas, c'est regrettable et c'est ce que moi j'ai qualifié d'une gestion de tâtonnement des finances publiques. Voilà un peu ce que je peux dire en rapport avec la thématique du jour.
Donc une gestion de tâtonnement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Bah, bon, d'accord. Voilà. Ok, on va écouter Patrick Tchibangou. Patrick, quand on parle de gestion de tâtonnement, qu'avez-vous compris de ce que vient de dire cet auditeur?
Bon, par rapport à la gestion des tâtonnements, c'est en fait ce que moi je peux comprendre, c'est que même lorsque nous parlons des 40% qui doivent être retenus, est-ce que nos provinces, à l'heure actuelle, peuvent connaître la valeur des 40% qui doivent être retenus à leur niveau? Parce que ce qui retient ce qui mobilise pour l'État dans les provinces, ce sont les régies financières. La DGI, la DGRAD, la DGDA et autres établissements publics. Mmh. Et de ces recettes-là,
qui doivent être retenus les 40%. Mais est-ce que les provinces ont accès aux logiciels de ces régies financières pour connaître la hauteur de ce qui est dû, ce qui leur est dû? Je ne pense pas. Ce qui veut dire, lorsque vous ne connaissez pas ce qu'on vous doit, vous ne pouvez pas réclamer parce que vous ne savez pas ce qu'on vous doit. Donc, au niveau de...
Chaque mois, le ministère des Finances publie les réalisations des régies financières.
Mais oui, il publie les
parce que le tout dernier où on a fait 105%, on est au-delà des assignations.
Effectivement, il publie les taux et ainsi de suite. Mais est-ce que les niveaux des provinces peuvent aujourd'hui dire, voilà, nous attendons, par exemple pour l'exercice 2022, que le gouvernement nous laisse nos 40% qui sont de l'ordre de autant. Parce que même à l'élaboration de leur propre budget, ce sont des dotations, c'est le gouvernement central qui leur communique des chiffres à mettre dans les rubriques de transfert aux provinces. Or, c'est eux, à leur niveau, qui devaient inscrire des chiffres dont ils ont la maîtrise par rapport à ce qui est prélevé dans leur entité. Ce qui veut dire, lorsqu'ils ont difficile à connaître les montants qui sont prélevés dans leur entité, lorsqu'on doit les rétrocéder, bon, ils ne savent pas réclamer parce qu'ils n'ont pas toute l'information par rapport à ces questions-là. L'autre aspect, un auditeur a parlé des assemblées provinciales et qu'on devait donner un peu plus de flexibilité aux assemblées provinciales pour agir. Or, les assemblées provinciales, lorsque vous regardez leur budget de fonctionnement, la plupart des assemblées provinciales, leur budget de fonctionnement ne dépasse pas les 30% des recettes provinciales. Le reste sont toujours attendus de Kinshasa. Alors, pour une assemblée provinciale qui a 20 à 30% de ses recettes de fonctionnement qu'il attend de la province, que la province peut lui donner suivant l'humeur de l'animateur de la province, vous voyez que l'assemblée provinciale est déjà affaiblie en termes de ses prérogatives de contrôle budgétaire. Or, si l'assemblée provinciale avait assez de moyens pour son fonctionnement, pour exercer ses missions de contrôle budgétaire, je crois que ça pouvait aussi agir dans la motivation à la mobilisation et dans le contrôle de la gestion des dépenses publiques. Donc, je crois que ce sont des éléments importants que les auditeurs ont donnés et il y a beaucoup de travail que le gouvernement...
Voilà. Alors, si vous le permettez, Patrick, avant de conclure cette émission, on va écouter quand même François Koudji, qui est un agent qui travaille dans une des régies financières en province. François, vous êtes à Tshikapa. Bonjour, François.
Oui, bonjour, Madame Kifouti.
Alors, est-ce qu'au niveau de votre régie financière ou au niveau de la province, par exemple, il vous arrive d'avoir une idée sur les taux de réalisation fiscale chaque mois?
Très bien. Une bonne question. D'ailleurs, je tiens à informer le public que je suis le receveur principal de la Direction générale des recettes du CASA et du CAPA depuis 2017 à l'époque du gouverneur de Manyang. Nous avons les statistiques des recettes mensuelles. Et pour votre gouvernement, l'Assemblée provinciale vote le budget de la province dans lequel il y a les assignations budgétaires de chaque centre de recettes ou de la direction générale pour la province. On peut nous dire, par exemple, que nous devons réaliser 4 milliards de francs congolais le mois. Alors, cela dépendra du dynamisme du directeur général en place et son comité de gestion ainsi que le chef de l'État et le chef du bureau du gouvernement parti par là. Donc, à l'instar de la retenue à la source dont il est question dans cette émission ici, les provinces mobilisent les sources propres, les recettes propres pour le développement de leur province. Donc nous avons des assignations et nous avons des montants qu'elles ont chaque fin du mois et le directeur général a publié aux chaînes locales, même dans les revues des presses locales, monsieur Jean Louis.
Est-ce qu'avez-vous une idée la dernière fois que votre province a bénéficié de la rétrocession?
Ah oui, écoutez, j'ai une idée parce qu'il arrive des fois, vu la charge des provinces, que la province a, on fait recours à la rétrocession, c'est-à-dire à l'époque du ministre des Finances, honorable Gilbert Ngoulagnougou, je pense. Mais permettez-moi, je ne parle pas avec exactitude parce que je ne fais pas partie des membres du gouvernement, mais je sais que récemment, avant ces 3-4 derniers mois, la province a pourrait bénéficier
de la rétrocession. Merci beaucoup.
Faciliter aussi à avoir la rémunération
Merci beaucoup François Okundji d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alors Patrick Tshibangu, on va conclure cette émission avec vous. Partenariat public-privé, oui, parce qu'il y a certains avantages qu'on peut tirer de ces contrats entre le privé et l'État, mais il y a beaucoup de risques quand on n'applique pas la linéa 2 de l'article 175 de la Constitution qui dispose de la retenue à la source, en tout cas pour les cas de notre pays. Vous avez estimé que ce n'est pas le moment de recourir au partenariat public-privé, mais d'abord d'appliquer les textes légaux qui existent.
Effectivement, il est temps de revenir à nos textes légaux qui nous régissent, notamment la Constitution qui est la mère des lois, pour que nous puissions améliorer la mobilisation de nos finances publiques, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Quant au partenariat public-privé, il faudra qu'il soit encadré par des mécanismes de contrôle a priori et a posteriori pour que l'État ne soit pas perdant dans les partenariats public-privé et que les populations qui doivent bénéficier des infrastructures qui devraient découler des partenariats public-privé bénéficient des infrastructures de qualité, mais dans les échéanciers bien négociés entre l'État et partenaires privés.
Alors, la question de la passation des marchés, est-ce que ça peut être aussi évoqué, ça peut être évoqué dans ce genre de débat?
Oui, la question des passations des marchés, c'est ce qui permet à ce que l'allocation des contrats puisse se faire de manière objective et qu'on puisse éviter le gré à gré. Parce que c'est le gré à gré qui favorise les disparités.
Oui, mais c'est pourquoi il y a certains auditeurs ont dû, disons, exprimer quelques inquiétudes. Hein, parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas une voie de consacrer la corruption, les détournements, parce qu'on aura toujours des problèmes de traçabilité?
C'est là que j'ai parlé de l'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mécanismes d'encadrement, qu'ils soient des mécanismes interne comme exogène, en amont comme en aval. Parce que s'il n'y a pas ce mécanisme d'encadrement, je crois que nous allons, au lieu de pouvoir bénéficier du développement, nous risquons encore de rentrer longtemps en arrière parce que cela va favoriser les détournements des fonds publics, l'enrichissement illicite et ainsi de suite. Donc, l'encadrement de ce mécanisme de partenariat public-privé devait se faire ainsi. Mais si l'État peut prendre courageusement la décision d'appliquer la retenue de 40% ainsi que de mettre en application le 10% de la caisse de péréquation, je crois qu'on n'aura pas besoin de recourir au partenariat public-privé. Plus de fonds seront alloués, seront retenus au niveau des provinces, plus les fonds seront retenus au niveau des provinces, plus l'investissement pourra se faire au niveau des provinces sans trop attendre du gouvernement central.
Alors, avant qu'on puisse lancer les programmes de développement local, est-ce qu'il aurait fallu qu'on puisse réfléchir sur ces modèles économiques, notamment les partenariats publics-privés, avant, au lieu de le faire en aval?
Le modèle de partenariat public-privé est déjà réfléchi au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a toute une instance
qui s'en occupe.
Qui s'en occupe à côté de l'ARMP, donc à côté
des autorités de régulation des marchés publics.
Des autorités de régulation des marchés publics. Mais ils ne sont pas trop effectifs parce qu'il y a encore certaines
insuffisances, quelques écueils qu'il va falloir corriger.
Qu'on doit mettre sur pied pour pouvoir être sûr que les échéances seront négociées de manière à ce que le gouvernement en soit bénéficiaire.
Donc, Patrick Tshibangu, merci beaucoup. Patrick Tshibangu, merci beaucoup. Vous avez accepté d'intervenir comme analyste économique dans cette émission. Merci à tous les autres d'avoir participé à ces débats et le rendez-vous est pris avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. À très bientôt.